Les divagabondages du Spoutnik Terre, c'est le format court de la capsule spatiale diffusée par les ondes de la radiophonie avec un grand U.
Au cours de la préparation de notre expédition lunaire du mois de décembre, un événement particulier s'est produit. Ça, c'est le bruit d'un géant qui s'effondre. Ça, c'est le bruit du radiotélescope d'Arecibo qui tire de façon bien percutante une bien triste révérence. Bienvenue Spoutnikterien. À bord de ce nouveau divagabondage, le format court de votre capsule spatiale propulsée par les ondes de la radioastronomie avec un grand U. L'actualité nous surprend parfois alors qu'on ne s'y attend pas vraiment. Et aujourd'hui, j'aimerais revenir avec vous sur la carrière d'un instrument qui, avec ses 57 ans d'existence, a mérité sa place au panthéon des plus grands. Pas d'inquiétude, à la recherche de la Spoutnik Terre Capsule 8 sera diffusée comme prévu le 2e mardi de janvier, le 12, à 19h sur Radio U, comme vous en avez maintenant l'habitude. Alors en attendant, installez-vous, faites comme chez vous, on va remonter tranquillement le fil du temps pour raconter le radiotélescope d'Arecibo, l'antenne géante qui fut pendant un bon moment à l'écoute des radios de l'espace. Nous sommes au nord de l'île de Porto Rico, territoire non incorporé des États-Unis situé dans les Caraïbes entre la République dominicaine et la Guadeloupe. Le télescope d'Arecibo est un radiotélescope. Cela signifie qu'il ne dispose pas d'un miroir réfléchissant dans lequel vous pourriez admirer votre reflet, mais à la place d'une surface réfléchissant les ondes radio. La radioastronomie est une discipline plutôt récente. Elle existe depuis les années 30, mais a pris son essor après la fin de la Seconde Guerre mondiale grâce au nombre d'antennes radio militaires décommissionnées après le conflit. Après ce premier essor, disons opportuniste, la radioastronomie s'est développée avec la construction de télescopes de taille plus imposante. La raison de cette poussée de croissance est la résolution des résultats obtenus. Pour fonctionner, un radiotélescope capte les ondes en provenance de l'espace, sur une plage d'ondes particulière en fonction de l'objet à étudier. Par exemple, le Soleil et Jupiter peuvent s'observer sur une bande de fréquences allant d'une dizaine à une centaine de mégahertz. En étudiant ces ondes radio, il est possible de « voir » entre guillemets des phénomènes ou événements qui ne sont pas détectables en lumière visible, permettant de compléter ou de découvrir de nouvelles connaissances sur certains objets. Le fond diffus cosmologique est un rayonnement fossile, émis seulement 380 000 ans après le Big Bang et qui constitue aujourd'hui la plus vieille image électromagnétique de l'univers. Cette image a été découverte grâce à la radioastronomie. Le problème dans tout ça, c'est qu'en plus de ces ondes radio, disons naturelles, s'ajoutent des ondes artificielles, comme celles produites par Radio U pour diffuser cette émission sur le 101.1 MHz. Des télescopes plus grands permettent alors de mettre en évidence les signaux plus faibles en provenance de l'espace. Deux méthodes sont alors possibles pour construire un radiotélescope de grande taille. La première est l'interférométrie. Elle consiste à combiner les signaux de plusieurs antennes étalées sur une large distance pour simuler une antenne de grande taille. C'est le cas par exemple du Very Large Array, un radiotélescope américain situé au Nouveau-Mexique et célèbre pour son champ de 27 paraboles géantes de 25 mètres de diamètre chacune et toutes pointées vers le ciel dans la même direction. 25 mètres de diamètre, c'est déjà très grand, mais si on pouvait faire encore plus grand, ça serait encore mieux. Le problème est que d'abord c'est techniquement compliqué et en plus c'est difficile à manœuvrer. Cela a cependant certains avantages, notamment une meilleure résolution dans certaines applications en comparaison avec l'interférométrie. Cette solution est donc celle qui a été retenue pour la construction du radiotélescope d'Arecibo, et il a donc fallu s'atteler à la construction d'une parabole géante. Pour construire une parabole géante sans trop d'efforts, il vaut mieux s'aider du terrain. Au lieu de construire toute une structure concave au sein de laquelle on va déposer des panneaux de métal réfléchissant les ondes radio, on va plutôt chercher un terrain qui a déjà une bonne forme. Ce terrain idéal, c'est sous le soleil de Porto Rico que les ingénieurs l'ont trouvé. Une doline de plus de 300 mètres de diamètre, une forme de demi-sphère et le tout à 500 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est une formation géologique naturelle de karstification qui est à l'origine de ce terrain à la forme si singulière. Si le phénomène est présent dans de nombreuses régions du monde, la forme quasi circulaire et la taille de cette doline fait du site d'Arecibo un site particulièrement intéressant pour l'implantation d'un miroir de grande taille. À partir de novembre 1960 et pendant 3 ans, panneau après panneau, le plus grand télescope du monde va prendre forme jusqu'à ouvrir ses yeux sur les fréquences invisibles le 1er novembre 1963. Les découvertes scientifiques du télescope ne se font pas attendre puisque moins d'un an après son ouverture, il permet de mettre à jour de façon significative la vitesse de rotation de Mercure, en la ramenant à seulement 59 jours, là où précédemment on pensait qu'elle était de 88. Le télescope d'Arecibo aura également un certain succès dans l'étude des pulsars dont nous parlions à l'épisode précédent. C'est notamment à lui que l'on doit la mise en évidence du pulsar du crabe et sa vitesse de rotation de 33 millisecondes. Par ailleurs, le radiotélescope permet à Hulse et Taylor en 1974 de mettre la main sur le premier système double de pulsars, c'est-à-dire deux pulsars qui se tournent autour. Cette découverte leur permettra d'ailleurs de recevoir le prestigieux prix Nobel quelques années après. Plus tard, en 1982, Arecibo permettra la mise en évidence d'un pulsar dont le temps de révolution est inférieur à 10 millisecondes, ouvrant la voie à une nouvelle catégorie de pulsars, des pulsars millisecondes. Enfin, dans les années 90, le radiotélescope d'Arecibo permettra à Alexander Volksgan de découvrir le pulsar PSR B1252+12, aussi appelé plus simplement LIGHT. Cette découverte est importante à plus d'un titre, puisqu'elle permet à Volksgan de découvrir les premières exoplanètes autour d'un pulsar. Souvenez-vous, lors de notre précédent voyage, je vous disais que les pulsars naissaient à la suite d'événements cataclysmiques, et on pensait alors à l'époque qu'il était peu probable qu'une planète se trouve en orbite autour d'une étoile si particulière. La découverte de Volksgan ouvre à de nouvelles perspectives, de sorte que la mort d'une étoile ne signifie pas nécessairement la mort du système planétaire qui l'entoure, et ouvre également à pas mal de questions. Ces planètes ont-elles survécu à l'explosion de la supernova? Sont-elles les cadavres de planètes plus massives dont les couches externes ont été soufflées lors de l'explosion? Est-ce une seconde génération de planètes issue des restes des planètes détruites lors de l'explosion? Ou bien encore, la vie est-elle possible sur ces mondes si extrêmes? Beaucoup de questions auxquelles nous ne répondrons pas aujourd'hui, mais qui sont définitivement bien excitantes. Malgré toutes ces découvertes scientifiques, c'est un homme, maniant bien mieux le pistolet que les équations, qui va définitivement faire entrer le télescope d'Arecibo dans la culture populaire. James Bond, GoldenEye 1995. Le radiotélescope sert alors de décor à la scène finale où le célèbre agent secret britannique du MI6 affronte Alex Trevelyan. Ce dernier, après un combat acharné avec le double zéro, chutera du haut de l'instrument, finissant sa course sur la parabole en contrebas. Le télescope d'Arecibo est également célèbre pour son implication dans la recherche de civilisations extraterrestres. En 1974, le message d'Arecibo, un message de 1679 bits, est émis depuis l'observatoire en direction de M13, un amas globulaire situé à 22 000 années-lumière de la Terre. Le message contient des nombres, des éléments d'information sur l'ADN, une description sommaire du système solaire ou encore la description du télescope d'Arecibo. Le message a été écrit entre autres par Frank Drake, célèbre pour l'équation qui porte son nom et qui tente de déterminer le nombre de civilisations extraterrestres dans l'univers. Le message d'Arecibo est en réalité plus une expérience philosophique que scientifique, tant les chances d'obtenir une réponse sont très faibles. Cela n'a pas empêché le télescope d'avoir été partie prenante d'un autre programme de recherche de vie intelligente, le programme SETI, acronyme anglophone signifiant « Recherche d'intelligence extraterrestre » dans la langue de Molière, au travers du programme SETI at Home. Ce programme permet à tout un chacun d'étudier depuis chez soi les signaux reçus par le télescope à la recherche d'éventuelles signatures caractéristiques d'une civilisation extraterrestre. L'aventure du géant commence à se gâter dans les années 2010 où le télescope subit de plein fouet le passage de plusieurs ouragans qui l'endommagent. Si des réparations sont effectuées, la baisse des financements et de nouveaux phénomènes naturels, tempêtes et tremblements de terre, conduisent en août 2020 à la chute d'un câble de support de l'instrument principal qui endommage la surface du télescope. Alors que des études sont en cours concernant la réparabilité des sections endommagées, un second câble se rompt le 7 novembre 2020, causant davantage de dégâts et rendant dangereuse toute réparation. Le 19 novembre 2020, la NSF, la National Space Foundation, annonce le démantèlement du télescope après 55 ans de service. L'annonce surprend, mais pas autant que l'effondrement spontané de l'instrument principal sur le miroir en contrebas le 1er décembre 2020 suite à la rupture des câbles restants. Une scène que l'agent secret au service de Sa Majesté n'aurait sans doute pas renié et qui a été filmée par les caméras de l'observatoire et un drone de surveillance. La triste fin de carrière du télescope d'Arecibo est due à une conjonction d'événements naturels et climatiques, mais aussi probablement à un manque de financement et de réelle volonté politique pour la sauvegarde d'un instrument pas vraiment anecdotique. Arecibo, loin d'être ridicule en 2020, restait un instrument de premier plan, en étant le second plus grand télescope du genre, uniquement dépassé par le télescope FAST chinois inauguré en 2015. Alors peut-être, le télescope d'Arecibo n'aura été que la vitrine malheureuse d'un phénomène de sous-financement chronique d'une recherche scientifique, parfois considérée par certains comme surfaite, trop chère et non essentielle. Mais ça, c'est une autre histoire, un autre débat, que je vous laisse le plaisir d'aller détailler. En attendant, chers voyageurs, gardez la tête en l'air, les yeux ouverts, à la recherche de la Spoutniterre. Pour écouter ou réécouter cet épisode ou les précédents, rendez-vous sur le site de Radio U, radio-u.org, dans la section podcast.
vous trouverez, dans l'onglet réservé à la recherche de la Spoutniter, toutes les émissions avec en bonus quelques précisions.